nzamba
nzambira samirana
Vous êtes bien sur la radio Inzam Bagateka Kawe, c'est le moment du journal en français, donc voici d'abord la charpente. Deux personnes ont été enlevées le matin de ce lundi en zone Kanyosha de la commune Mouha en mairie de Bujumbura. Au moins cinq personnes ont été déjà enlevées en mairie de Bujumbura pour le seul mois de septembre. Dans l'actualité de ce lundi, c'est également le phénomène d'abandon scolaire qui devient inquiétant dans la province de Muyinga. Environ 10% des effectifs scolaires ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire écoulée. Et puis, le monde entier célèbre tous les 27 septembre de chaque année la Journée internationale du tourisme. Au Burundi, l'ONG locale Parsem constate que malgré les opportunités qu'offre le Burundi, le secteur se porte mal suite à la crise de 2015 et à la pandémie de la COVID-19. Voilà pour l'essentiel de ce journal. À la présentation, Josine Kadé, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons en sécurité pour commencer ce journal. Un enfant a été tué et beaucoup d'autres personnes ont été blessées vers 17h de ce lundi dans une explosion de grenade dans un bistrot chez Gaparata situé dans le quartier Ruziba, zone Kanyosha au sud de la ville de Bujumbura. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version de la police burundaise sur cet incident. Et puis, une femme du nom de Chantal Hatungimana a succombé à ses blessures l'après-midi de ce lundi. Cela s'est passé devant sa maison située au quartier Chalama de la zone Kinama en mairie de Bujumbura. Des sources dans son voisinage indiquent que Chantal Hatungimana, directrice de rapatriement au ministère de l'Intérieur, a reçu plusieurs balles dans le ventre alors qu'elle venait de quitter son domicile pour aller au travail. Selon les sources dignes de foi, l'auteur de ce crime avait un pistolet et un fusil de type Kalachnikov. La police burundaise a fait savoir que l'auteur du crime a pris fuite avec une moto qui l'attendait et que des enquêtes pour retrouver le criminel sont en cours. Deux personnes ont été enlevées vers 1h du matin de ce lundi dans la zone Kanyosha de la commune Mouha en mairie de Bujumbura. Les proches sont inquiets pour la sécurité des leurs. Le phénomène des enlèvements est devenu de plus en plus alarmant dans la mairie de Bujumbura. Au moins 5 cas ont été enregistrés pour le seul mois de septembre. Plus de détails avec Alice Akimana.
Les personnes qui ont été enlevées dans la matinée de ce lundi sont Fidel Niongabo, résident sur la 2e avenue de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, et son chauffeur. Les proches de la famille révèlent qu'ils ont été enlevés par des gens en uniforme des forces de l'ordre et d'ajouter qu'il était vers 1h du matin et que ces derniers n'ont pas été identifiés. Ils ont cherché partout jusque dans l'après-midi de ce lundi. Ils n'avaient pas encore trouvé la trace des leurs. Ce phénomène des enlèvements qui sont suivis dans pas mal de cas par des disparitions inquiète de plus en plus les défenseurs des droits humains. À côté de ce double enlèvement à Kanyosha, s'ajoutent au moins 3 autres cas pour le seul mois de septembre. Le premier en date est le nommé Thierry Nyonguru. Il résidait dans le quartier de Kinania, en zone de Moussaga, de la commune de Mouha. Des proches de sa famille indiquent qu'il est natif de la commune Mugongomanga, en province de Bujumbura. Il a été enlevé par des inconnus qui étaient à bord d'une voiture de type TI. Peu avant son enlèvement, il était en communication avec le policier cité dans plusieurs cas d'enlèvement, nommé Hassani Mubona et surnommé Love. Les proches de sa famille ont cherché partout, mais ils n'ont trouvé aucune trace des leurs. La seconde personne enlevée est Renova Neiziga, enseignant de l'école fondamentale de Kigereka de la commune Bukei en province de Mouanvia. Il a été arrêté chez lui à Kigereka dans la matinée du 14 septembre vers 2h du matin par l'administrateur de Bukei, Ephraim Dikumasawo, en compagnie du chef de la colline de Kigereka ainsi que des agents du service national des renseignements. Des sources à Bukei indiquent que depuis lors, aucune trace de cet enseignant. Les mêmes sources font savoir que Renova Neiziga était des membres du parti CNL et ceux qui sont venus l'appréhender lui ont accusé de collaborer avec les groupes armés. Le troisième à être enlevé est Jean-Marie Vianney Badogomba. Il a été enlevé en pleine journée dans la zone de Lorelo sur l'avenue de l'université le 19 septembre 2021. La voiture qu'il conduisait a été retrouvée devant les bureaux de la police de sécurité routière. Les proches de sa famille s'inquiètent que depuis son enlèvement, ils n'ont aucune nouvelle. Les familles des personnes victimes de ces enlèvements sont inquiètes et désespérées de pouvoir retrouver les leurs encore vivants. Et face à ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba Gatera Kawe n'a pas encore la version de Pierre Moulikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.
Pacifique Ninina Hasgwe, le président de la campagne d'Ondeza du Forum pour la conscience et le développement Fokodé, constate une augmentation considérable des cas d'enlèvement comme au lendemain du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les autorités du pays pourront être responsables de ces crimes. Écoutez Pacifique Ninina Hasgwe.
Ces cas sont particulièrement observés en mairie de Bujumbura, dans certaines communes comme Mugamba et dans des communes de Bujumbura Rihar, mais aussi de Mwaro et dans d'autres localités du pays. Les cibles de ces enlèvements sont principalement des Tutsis, mais aussi des membres du parti CNL et du parti MSD. C'est comme si nous étions retournés à l'année 2015 ou 2016, où tout le temps on recevait des messages d'alerte d'enlèvement des citoyens. Nous constatons que ces enlèvements et disparitions sont organisés par le Service national de renseignement SNR et par les renseignements militaires, le bureau dit G2. Les personnes arrêtées, je dois dire d'ailleurs ici, que nous faisons le constat que pour le Service national de renseignement et les renseignements militaires, le kidnapping est devenu comme un mode normal d'arrestation des gens. Les gens sont arrêtés sans aucune présentation de mandat d'arrêt, sont trouvés chez eux, ils sont appelés au téléphone dans certains lieux et ils sont enlevés, emmenés et détenus dans des lieux qui restent secrets. Ici, nous voudrions rappeler que ces pratiques sont des violations graves de droits humains et nous voudrions rappeler aux autorités burundaises qu'elles seront tenues responsables de ces crimes, en rappelant également que ces crimes sont imprescriptibles, qu'à n'importe quel moment, les autorités burundaises pourront être poursuivies à cause de ces pratiques ignobles et qui constituent des crimes contre l'humanité.
Trésor Manilakiza est mort en Suède dans la nuit du 25 septembre 2021 après 6 ans de souffrance liées aux blessures des balles de la police nationale du Burundi en 2015 à Bujumbura. Ce jeune avait reçu des balles pendant les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Pour les avocats des victimes qui suivent les dossiers devant la Cour pénale internationale, Trésor Manilakiza était un symbole vivant de la résilience. Maître Lambert Nigalula, qui avait porté plainte à la CPI au nom de Trésor, demande à cette cour d'accélérer leur travail sur les dossiers des présumés auteurs des crimes au Burundi.
Et nous avons appris avec consternation la mort de Trésor Manirakiza. Trésor Manirakiza n'était pas une simple victime. Et comme vous le savez, il a été touché par la barre de la police le premier jour des manifestations pacifiques contre la violation de la Constitution et des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. Malgré la gravité de la blessure, Trésor Manirakiza, il a passé 6 mois dans un état comaté, mais il s'est réveillé. Il était donc jusqu'à son dernier souffle le symbole vivant de la résilience et de la résistance. Donc sa mort est une grosse perte, une perte pour sa famille biologique, mais aussi une perte pour toute la communauté burundaise, particulièrement toutes les personnes qui ont contesté la violation de la Constitution et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. L'affaire de Trésor Manirakiza, comme d'autres affaires, ont été transmises devant les mécanismes juridiques, judiciaires internationaux, dont la Cour pénale internationale. Et c'est une occasion de rappeler à la Cour de franchir notre étape, d'organiser un procès avant que tous les témoins ne disparaissent, mais aussi avant que tous les bourreaux et les présumés auteurs ne disparaissent aussi. Et nous rendons donc hommage à ce citoyen burundais qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Il restera le symbole de la résilience au Burundi.
Et dans un procès de flagrance, le tribunal de grande instance de Gitega a requis hier une peine de servitude pénale de 5 ans à 3 employés de la station d'essence Burundi Petrol Product appartenant au député Gabriel Nisedzelana. Les 3 employés, le gérant, le pompiste et la sentinelle sont accusés d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale en dissimulant le carburant en vue d'aller le vendre à un prix élevé. Ils avaient été surpris par l'administration de Gitega la semaine dernière en possession de 1136 litres.
Inzamba.
Nous poursuivons ce journal. L'Observatoire de la presse au Burundi condamne énergiquement la persécution dont a été victime la semaine dernière un journaliste de la radio Bonesha FM, Aimé Richard Niyonkuru. Il en profite pour demander au président de la République de joindre l'acte à la parole pour garantir la liberté de la presse au Burundi et surtout éviter de se contredire chaque fois. Beni Axela Kana.
Le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que certains des principes piliers de la démocratie ont été mis en avant par son gouvernement. Évariste Ndayishimiye indique que des efforts ont été beaucoup consentis au dialogue avec les médias, ce qui a permis la réouverture de quelques médias suspendus. Cependant, aucun mot sur les médias incendiés par les forces de l'ordre. Évariste Ndayishimiye.
Le gouvernement s'est concentré sur la protection des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques, les libertés d'opinion, d'expression et de presse. Et beaucoup d'efforts ont été consentis grâce à l'instauration d'un dialogue quasi permanent entre les partis politiques, les médias, la société civile et les pouvoirs publics. Ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015.
Pas plus tard au lendemain de sa déclaration à la tribune de l'ONU, le 23 septembre de la semaine dernière, sa déclaration a été contredite par l'emprisonnement et la persécution d'un journaliste de la radio Bonesha FM. Aimé Richard Niyonkuru a été emprisonné environ 5 heures au commissariat municipal de la police, son matériel confisqué. Il collectait des informations sur terrain dans la zone Kamenge où une grenade avait fait 2 morts la veille au domicile d'un haut grade de l'armée. L'Observatoire de la presse au Burundi condamne la séquestration engagée à l'endroit des journalistes au Burundi. Innocent Muhoozi, président de l'OPB, appelle le président de la République d'user de son pouvoir pour joindre l'acte à la parole aussi longtemps que ses propos sont contradictoires à la réalité sur terrain. Innocent Muhoozi.
Ce qui vient d'arriver à notre collègue Richard Niyonkuru de la radio Bonesha est une illustration, s'il en fallait une encore, du décalage qu'il y a entre le discours du chef de l'État à New York aux Nations Unies et ce qui se passe réellement au pays. Qu'un journaliste soit tabassé à coups de poing, à coups de pied, à coups de crosse, et qu'on le projette au sol, qu'on le relève en lui tirant par les cheveux, et qu'il soit traumatisé à ce point, juste parce qu'il a été faire son travail, il n'y a pas meilleure illustration du décalage entre ce que dit le chef d'État et ce qui se passe dans son pays. Si le chef d'État veut réellement que le Burundi soit comme il l'a décrit, il est fondamental qu'il travaille justement avec la société civile, avec les partis politiques, avec les médias, qu'il réunisse toute la société pour qu'il y ait un véritable dialogue qui permette d'avoir le Burundi qu'il a décrit.
Rappelons que depuis 2015, des radios et télévisions indépendantes ont été incendiées, une centaine de journalistes contraints à l'exil. Ceux qui sont restés au pays ne cessent d'être persécutés selon les rapports des organismes internationaux qui militent en faveur de la liberté de la presse dans le monde.
Dans le domaine de l'éducation, le phénomène d'abandon scolaire inquiète en province de Muyinga. Selon les informations recueillies auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, plus de 19 000 élèves et écoliers, soit 9,7% des effectifs, ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire écoulée, édition 2020-2021. Les causes de ces abandons sont entre autres la pauvreté dans les familles et les grossesses non désirées. On fait le point avec Joséphine Jones-Hunzimana.
Au niveau de l'école fondamentale, les abandons se chiffrent à 17 949, dont 9 820 garçons, soit 10,3%, les filles totalisant 8 129 abandons, soit 8,7%, parmi lesquels 42 ont eu des grossesses non désirées et d'autres se sont mariés précocement en cours de scolarité. Au poste fondamental, l'on a enregistré 1103 abandons, dont 592, soit 9,6%, et 511 filles, soit 10,3%. Selon notre source, parmi ces 511 filles, 51 sont tombées enceintes et d'autres se sont mariées durant leur scolarité. Les raisons de ces abandons sont variées. On signalerait, entre autres raisons, l'ignorance des parents sur les bienfaits de l'école, les grossesses non désirées, les mariages précoces, le travail des enfants contre l'argent, surtout les départs vers la Tanzanie des enfants, soit à leur propre gré, soit avec la bénédiction des parents, la pauvreté des ménages et autres.
Le gouvernement devrait exploiter utilement de tels rapports produits chaque année selon la ligne Widi. De cette manière, le même gouvernement pourrait entreprendre des actions visant à lutter contre le phénomène d'abandon scolaire. C'est notamment la mise en place de comités d'encadrement des jeunes et appuyer les projets susceptibles de résoudre la pauvreté dans les familles. On écoute Eulali Nivitz.
Ce rapport sort, si vous voulez, chaque année. Si ce n'est pas la province de Moyinga, il y a la province de Tumitoki, il y a d'autres provinces qui, à tour de rôle, subissent ces situations d'abandon scolaire qui sont quand même très inquiétantes. C'est pourquoi le gouvernement devrait exploiter les rapports qui sont produits, soit au niveau de la province, soit au niveau national, et constituer des équipes au niveau local qui vont s'occuper de la recherche de la solution et par conséquent partir des solutions qui sont proposées au niveau local pour initier une solution nationale. Par exemple, pour le cas de la pauvreté, pour le cas des mariages précoces, pour tous ces cas-là, il faut d'abord une éducation des parents, une éducation des élèves, une éducation de la communauté, pour que la communauté puisse contribuer à l'abandon scolaire de ses enfants. Ils peuvent passer par ce qu'on appelle les équipes amies des filles, et ces équipes amies des filles pourraient contribuer à consolider l'éducation dans la province. Parce que ce ne sont pas tous les pauvres qui abandonnent l'école, mais c'est surtout le manque de références, le manque de stratégie et le manque de solutions locales, mais aussi l'impunité. Parce que si dans une commune, les élèves abandonnent pour des raisons de grossesse, pour des raisons de pauvreté, pourquoi le gouvernement ne prendrait pas de stratégie locale pour la création d'emplois et la valorisation des emplois et pour limiter l'exode vers la Tanzanie?
Inzamba.
Le secteur du tourisme au Burundi a connu des avancées significatives depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, annonce faite par le secrétaire permanent au ministère du Commerce à l'occasion de la journée internationale y relative. Pour Jérémy Maniguaninzigo, des réformes sont nécessaires dans le renforcement des capacités pour soutenir ce secteur. Suivez-le.
Le nombre d'établissements touristiques d'hébergement est passé de 87 en 2010 à 595. En 2019, le secteur du tourisme est porteur de croissance économique et créateur d'emplois au Burundi à hauteur de 4,4% dans de nombreux secteurs qui y sont liés, dont l'agriculture, aux télécommunications en passant par le bâtiment. Nous célébrons cette journée dans le contexte du Covid-19 qui a durement frappé l'économie mondiale, sans oublier le secteur du tourisme. Le ministère ayant le tourisme dans ses attributions à travers la Direction générale du tourisme encourage les citoyens burundais à visiter les milieux touristiques de notre pays et appelle les étrangers à visiter le Burundi. Le gouvernement du Burundi est conscient que des réformes reste nécessaire dans le secteur, notamment le renforcement des capacités des professionnels pour améliorer la qualité des services, la classification des établissements hôteliers, le développement des infrastructures touristiques comme la construction des salles de conférences internationales ainsi que la réhabilitation des sites touristiques.
Le secteur du tourisme, qui devrait être l'un des secteurs clés de croissance économique, n'évolue pas au Burundi. C'est le constat de Faustin Dikumana, le président de l'ONG locale Parsem. Il se base sur une étude réalisée avant 2015 et qui classe le Burundi en dernière position par rapport aux autres pays de la sous-région. Faustin Dikumana trouve malheureusement que la situation s'est empirée avec la crise de 2015 et la pandémie de la COVID-19.
Avant 2015, même s'il y avait une étude qui avait été faite et qui comparait les pays de l'East African Community sur le nombre de visiteurs et recettes en matière de tourisme. Le Burundi vraiment était largement en arrière. Et au moment où les autres pays de l'East African Community mobilisaient plus de 500 millions de dollars, mais milliards même de dollars, le Burundi pouvait mobiliser environ 5 millions de dollars. Et au moment où les autres pouvaient avoir enregistré plus de millions de visiteurs, le Burundi en avait, pouvait enregistrer quelques dizaines de milliers. Donc, ces chiffres montraient que le Burundi vraiment était de loin par rapport aux autres pays de l'East African Community, alors qu'au niveau du potentiel touristique, le Burundi et aussi à des potentialités. Mais ce qui a continué aussi à aggraver la situation, c'est la crise des politiques de 2015 qui a contribué à ternir l'image de notre pays. Il y a le Covid-19, il y a le manque de moyens d'aménager les sites touristiques et pour profiter de cette position de plaque tournante. Et j'imagine que, comme le Burundi avait déjà élaboré une stratégie nationale de développement du tourisme, on devait alors miser sur les axes qui avaient été identifiés, notamment le développement du tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs. Nous avons le lac Tanganyika, on peut même développer le tourisme gastronomique. Et cette position de plaque tournante du Burundi entre les pays francophones et les pays anglophones, nous pouvons développer le tourisme des services de la population, par exemple, de l'Est du Congo et de l'Ouest de la Tanzanie. Il suffit de faire une stratégie. En tout cas, il faut la mise en action de cette stratégie en termes de tourisme, car le secteur touristique, le potentiel touristique dans le Burundi, le Gorge, est encore sous-exploité.
Le LUCOM demande au gouvernement burundais d'adopter une politique nationale de vaccination anti-Covid-19. Au cas contraire, il aura violé le droit à la santé pour sa population, un droit reconnu par la Constitution burundaise et d'autres mécanismes internationaux ratifiés par le Burundi en matière des droits de l'homme. Dans un communiqué de presse sorti ce lundi, Gabriel Ussiri, le président de cette organisation, interpelle d'autres institutions, organisations et confessions religieuses de prendre conscience de cette pandémie et demander au gouvernement de prendre des mesures efficaces contre la COVID-19. En suivez.
Il est plus qu'urgent que le gouvernement burundais change de discours. D'abord, par rapport à la vaccination, parce que ce que nous assistons à la résignation totale. Il faut vraiment quitter et arrêter ces croyances mortes qui pousser les gens à se réfugier dans la résignation au lieu vraiment d'affronter ce fléau qui est en train de faire ravage. Je dois redire en termes clairs, le gouvernement burundais doit appeler la population à se faire vacciner massivement. Le gouvernement doit disponibiliser les vaccins. Nous demandons au gouvernement d'intensifier, d'élargir des mesures qui tendent à freiner la propagation de la COVID-19. Parmi ces mesures, il y a le port du masque qui couvre le nez et la bouche. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent aussi qu'il y ait suspension de quelques activités, notamment les rencontres en masse. Par ailleurs, l'ORICOM ne comprend pas comment le gouvernement burundais met en doute la vaccination au moment où tous les pays au monde qui sont tellement avancés en science, ils ont vu que la seule arme qu'ils disposent pour combattre la COVID-19, c'est le vaccin. Aujourd'hui, je dirais que le Burundi est en train de condamner ses citoyens en leur refusant le droit qui leur est conféré par la Constitution burundaise, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Il y a une autre chose qui nous étonne vraiment, c'est le silence complices de certaines institutions qui ont une force morale. Nous interpellons plus particulièrement l'institution de Bashingantahe. Aussi, nous interpellons les confessions religieuses, la société civile, l'Ombudsman burundais, la CNDH et d'autres groupes constitués doivent donner un message clair au gouvernement pour que le gouvernement comprenne vraiment qu'il y a urgence pour que la vaccination soit une réalité au pays.
Pour boucler ce journal, la formation de basketball Ounani chez les hommes et les gazelles chez les dames ont remporté ce dimanche le tournoi qui prépare le championnat de cette année au basketball. Au football, au tournoi de Primus League, après 5 matchs, Burundi Sport Dynamique occupe provisoirement la première place. Les détails avec Blaise Nijimbere.
Ce dimanche s'est clôturé au terrain du département des sports le tournoi de la pré-saison au basketball. Chez les dames, les gazelles ont battu difficilement Gladiator, c'est un score de 64 points à 63. Chez les hommes, la finale a opposé les clubs les plus en forme du moment, à savoir Ounani et New Star. C'est Ounani qui s'est facilement imposé sur 60 points à 47. Après ce match, Richard Patrick Nguizuruvugo, coach d'Ounani, a remercié ses joueurs qui ont appliqué à la lettre les consignes. Il a indiqué que l'objectif d'Ounani est de gagner toutes les coupes mises en jeu par la fédération. Côté New Star, ils reconnaissent qu'ils ont raté cette finale. Blaise Mbonelane, directeur technique du New Star, indique qu'ils veulent gagner contre Ounani. Ils ne devraient plus commettre les mêmes erreurs. Ils précisent tout de même qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour revenir à leur niveau. Au football, le championnat Premier League a clôturé ce dimanche la 5e journée. Aigle du Nord battu Vitalo sur un score de 2 buts à 0. Même score entre Flambeau de l'Est en faveur de Flambeau. Et Bumamalu a également battu les Crocos pour 2 buts à 1. Dans les autres rencontres, Musongati a dominé Kayanza United par 3 buts à 0. Atletico New Oil a créé la surprise en s'imposant devant Messager Ngozi sur un but à 0. Flambeau du Centre a également battu Royal sur un but à 0. Même score entre Burundi Sport Dynamique et Top Junior en faveur de Dynamique. Ce club du Burundi Sport Dynamique a pris du coup la première place du championnat à titre provisoire. La lanterne rouge du championnat est la formation des Crocos qui occupe la dernière place avec 0 points au compteur.
Merci Blaise Nijimbele, c'est par là que nous bouclons la boucle de ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzambagate Kakawe. Au revoir et à la prochaine.